Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 14 novembre 2020. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine, bon retour.
T'étais dans une petite vacance cette semaine.
Ah, des petites vacances, hein, on a droit à ça à l'occasion. Donc voilà, je me suis promené au Québec, hein, ça a l'air que c'est ça qu'on peut faire.
Bon,
mais je suis de retour.
T'es de retour, puis il y a bien des gens qui t'ont manqué dans notre live Facebook du mercredi
après-midi. Ben oui, on va reprendre.
T'as même pas pu vite découvrir notre nouveau décor extraordinaire.
Ben non, j'ai vu ça comme les gens qui t'ont écouté. Là, j'ai découvert ça en même temps qu'eux. Très hâte de retrouver la grosse brune la semaine prochaine. Au chaud, voilà.
Et
au chaud est bien éclairé en plus.
Et je l'ai nettoyé.
Ouais, j'ai tout vu ça sur Instagram. C'est fantastique. J'étais loin, mais pas très loin de mon téléphone.
Bon, parfait. Allez, écoute, on commence par parler d'un véhicule commercial en version électrique, le Ford e-Transit, donc une version électrique du Ford Transit pleine grandeur.
Oui, exactement. Donc, ça avait été annoncé il y a quelques mois. La même semaine, on se rappelle que GM avait ajouté un nouveau moteur V8 à sa gamme pour son Chevrolet Express, son GMC Savannah. Et la même semaine, Ford avait annoncé l'arrivée éventuelle d'un Ford Transit électrique. Donc, deux directions totalement opposées.
Ouais.
Et ben, cette semaine, on a eu plus de détails. On nous l'a dévoilé. Ben, esthétiquement, c'est le même véhicule. Là, on se le cachera pas. Et par contre, pour ce qui est de l'autonomie,
Et j'ose croire que ça va être le même véhicule pour les 20 prochaines années. C'est du moins ce à quoi on peut s'attendre si on se fie à ce que Ford a fait avec le E-Series et ce que GM fait toujours avec le GMC Savannah.
Mais ça marche!
C'est ça, exactement.
Ça marche.
Donc, les gens n'achètent pas ça pour le look, là.
Non, on est d'accord. Donc, batterie de 67 kWh, autonomie de 203 km. C'est pas énorme, mais on le présente comme étant un fourgon pour faire des déplacements urbains. Donc, c'est sûr que si tu fais de la livraison, là, dans
puis
les centres-villes.
On s'entend que l'autonomie va varier en fonction de ce que tu mets dans la boîte. Là.
Oui, totalement. Donc,
ça demeure une autonomie quand même supérieure au véhicule que je conduis aujourd'hui.
Oui.
C'est une Mini Cooper électrique qui est super le fun, honnêtement. Là, je m'étends pas sur le sujet, là, mais c'est vraiment une petite voiture amusante à mort, mais 177 km d'autonomie.
En 2015, ça aurait été correct. Là.
En 2020, puis au prix où on en demande, là, je frise des 50 000 piastres avec ça. Donc, moins les crédits gouvernementaux.
À part le véhicule de presse, j'en ai pas vu sur la route en ce qui me concerne.
Une seule, moi.
Okay.
Une seule, moi. Fait que c'est quand même... C'est une voiture très, très, très nichée. Ouais. Revenons à nos moutons e-Transit.
Oui, exactement. Donc, c'est 266 chevaux, 317 livres-pieds de couple. Hein. On est habitué au moteur électrique. Là, du couple instantané. La date d'arrivée, je t'avoue que le détail m'échappe. Modèle 2021. Donc, probablement... Là,
OK, donc en cours d'année, on va
En cours d'année, et connaissant peut-être les mauvaises habitudes que Ford a prises dans les derniers mois, ça va être à la fin
2021.
On a eu le prix, hein, quand même, c'est un détail important. 58 000 $ pour la version de base. Donc, c'est pas donné. Mais,
et il n'y a pas de crédit éligible pour ça, évidemment. Là.
Non, je pense pas que ça réponde à aucun critère.
Parce que ça
prend
un véhicule à 7 passagers.
Voilà. Donc, on n'est pas là pour le moment. Donc,
bon. Hyundai Tucson, on a eu un peu plus de détails sur la nouvelle génération qui a un look assez champ gauche, merci.
Oui.
Puis, on connaît maintenant les mécaniques.
Oui, on avait vu les photos il y a quelques mois aussi, mais
Je me demande combien ça va coûter remplacer une lumière sur ce véhicule-là s'il y a un accident.
Ah, je sais pas, mais moi, je te confirme que j'aurais le goût de les remplacer tout court, là.
Ouais,
mais
c'est ça,
c'est une autre histoire.
Les bons vieux, c'est le beam, ça fait.
Ouais. On a vraiment pris là, une tangente que je ne comprends pas chez Hyundai avec un look là, à tout casser. C'est un peu trop. Vraiment, c'est un peu trop. Donc, tout ça pour dire moteur de base, hein, 4 cylindres 2.5. C'est un moteur qu'on retrouve de plus en plus, finalement.
Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'on ne parle pas d'une mécanique turbo-compressée.
Non.
On a lâché ça.
Parlons pas trop vite, parce qu'il y a une version hybride qui, elle, va avoir le 4 cylindres 1.6 turbo aussi. Donc,
non, mais je veux dire, comme moteur de base, d'avoir une mécanique d'un peu plus grosse cylindrée.
Un peu plus robuste. Là.
Parce que moi, je suis vendu aux plus grosses cylindrées
qui
ne consomment pas plus, en fait, qui consomment même souvent moins. Tu sais, j'avais... Je fais, j'amène encore le parallèle entre les cotes de consommation annoncées d'un RAV4 à moteur 2,5 ouais. litres qui sont plus basses que celles du Ford Escape avec le moteur 3 cylindres EcoBoost cylindre, turbo.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Fait que, ça vous donne une idée. Donc, Hyundai qui avait un petit moteur 2 litres qui était un peu poussif dans le passé et un moteur 1,6 turbo, ben là, le moteur de base, c'est un 2,5. Pour moi, c'est une super bonne nouvelle.
Oui. Et bon, fait que comme je glissais un mot, il va y avoir une version hybride, moteur turbo 1,6, mais aussi une version hybride rechargeable qui devrait arriver en deuxième moitié d'année 2021. Donc, ça devrait être franchement intéressant parce qu'on sait que y a le RAV4 Prime qui est là, il y a l'Escape qui va peut-être arriver un jour. L'Escape
puis l'Outlander qui est légèrement renouvelé cette année.
Qui continue, c'est ça, lui, ouais. d'être là. On nous parle d'une autonomie de 45 km. C'est un peu moins que les joueurs actuels et les joueurs à venir, mais bon, je pense qu'il va avoir un marché intéressant pour ça.
Est-ce qu'on sait si le Tucson hybride rechargeable sera offert avec le rouage intégral?
C'est une bonne question. On est encore là au début de...
Donc, il n'y a pas beaucoup de données.
Il n'y a pas beaucoup de données. On nous a parlé quand même d'une version d'un Tucson N-Line. Hein? C'est une nouvelle sous-marque, hein? Quasiment une nouvelle sous-marque de commerce, de véhicule à vocation sportive. Donc, j'ai hâte de voir
En fait, c'est pas compliqué, là. T'sais, pensez à S-Line chez Audi.
Ah, tout à fait.
Pensez à M chez BMW.
Mais concrètement, ça va ressembler à quoi avec le Tucson? Il est encore trop tôt pour en parler. Mais on arrive vraiment avec une gamme très, très, très étendue.
Je sais pas si Honda va répliquer avec un CRV de ses pairs.
Je ne sais pas. Ce serait...
On commence par répliquer avec un nouveau CRV. Là. Ça aiderait.
Oui. Bon,
c'est une autre histoire.
Un nouveau CRV et une nouvelle Civic.
Parlant de Honda, moi qui ai maître des transitions.
T'es rendu bon. Pour vrai, t'es rendu bon.
Surprends.
Et on attendait la Civic de nouvelle génération au printemps prochain. Je pense que les gens de chez Honda ont compris que on n'était pas capable d'attendre si longtemps encore. Fait que ce qu'on nous a dit, c'est qu'on allait nous dévoiler à la fin du mois de novembre le prototype. Hein, on a fait ça avec le MDX, nous dévoiler un prototype.
Qui va être un véhicule très près de la production.
C'est essentiellement le même truc. Donc, 11e génération de la compacte japonaise. Et ce qui a retenu l'attention, en tout cas la mienne, c'est que ça va être dévoilé sur Twitch. On sait qu'on est dans un...
Que c'est ça, Twitch? Moi, honnêtement, je connais pas ça.
Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelques cheveux gris qui te sont poussés pendant cette phrase. Mais donc, on est dans un monde où tous les véhicules sont dévoilés de manière virtuelle. Il n'y a plus rien de concret qui existe.
Ouais.
Et Twitch, en fait, c'est une plateforme de streaming en ligne. Et qui a un public très, très jeune. Là. Plus de la moitié des utilisateurs ont entre 15 et 30 ans. Donc, et la Civic, traditionnellement, c'est toujours adressé à un public assez jeune.
Ben, je me permets un peu de te corriger là-dessus parce que moi, je trouve que la Civic a suivi sa clientèle du début.
Ben, peut-être qu'on veut la renouveler.
C'est-à-dire que, je te donne un exemple, ma mère s'est acheté une Honda Civic en 1975.
Ouais.
OK? Et si tu regardes l'évolution... Mais il y a des gens qui ont conduit des Civics toute leur vie, qui ont renouvelé des Civics comme ça toute leur vie.
Mais il y a aussi des gens qui ont embarqué avec le voyage Civic dans les années 90, par exemple.
Oui, 90.
Même jusqu'au début des années 2000.
Mais je te dirais qu'à partir, à partir d'il y a peut-être 15 ans, on voyait la clientèle de la Civic vieillir un peu plus.
Oui. Alors que là, on veut ressauter, on veut reconquérir les jeunes. Là.
Mais tu sais, la Civic s'est embourgeoisée, la Civic est devenue une voiture.
C'est rendu cher aussi. Là. On a parlé des prix il y a quelques semaines.
Moi, le prix d'une Civic, pour moi, même si on a coupé les versions de base, pour moi, c'est pas un irritant parce que ce sont toujours des voitures qui se revendent bien, qui ont une bonne valeur, des coûts de possession à long terme qui sont inférieurs à la moyenne. Donc, j'ai pas de problème avec le... Tu sais, je veux dire, on a fait du gros tapage avec ça, comme quoi la Civic de base coûtait 25 000 $ cette année. OK, je suis d'accord, mais c'est juste parce qu'on vend plus de versions en boîte manuelle. Mm-hmm. Mais il en demeure pas moins que si tu achètes une Civic à 25 000 $ cette année versus une Hyundai Elantra à 25 000 $ ben tu risques d'avoir...
T'en as plus pour ton argent, puis dans 4 ans ou dans 10 ans...
T'en as plus pour ton argent, mais je veux dire, ton coût de possession à long terme...
Dans 4 ans, tu vas
moins.
La revendre plus cher que l'Elantra, puis dans 10 ans aussi, tu vas la revendre plus cher que... T'es,
un peu,
à chaque étape de sa vie, elle va mieux conserver sa valeur.
C'est peut-être un peu moins vrai que c'était à une certaine époque, parce que la concurrence a rattrapé la Honda, et je trouve qu'Honda s'assoit sur ses lauriers depuis plusieurs années. Puis j'espère qu'avec cette nouvelle génération de la Civic-là, ben, premièrement, on va découvrir une voiture moins LED, là. Ben, on peut-tu faire un design que du bon sens?
C'est pas joué d'avance, là, qu'elle va être moins LED.
C'est pas joué d'avance, ça, c'est sûr.
Donc,
mais c'est la première génération de Civic à laquelle je me suis jamais habitué. Mm-hmm. Tu sais, moi, je me souviens, quand on a lancé la Civic en 2006, j'ai fait... Wow, c'est assez audacieux. Puis j'étais pas sûr au début, mais deux ans après, je la trouvais magnifique.
Ouais.
Puis à chaque fois qu'on a renouvelé une Civic, à chaque deux générations, on a complètement changé la direction en matière de design, ouais. Ben j'étais comme pas certain, puis ça s'ajustait. Mais depuis 2016, j'ai jamais été capable de m'habituer à ce nouveau design-là que je trouve toujours aussi laid aujourd'hui.
Je peux pas te dire qu'elle est belle.
Et que ce soit le hatchback, la berline, la tipper, Denis...
Le coupé, ça passait, franchement.
Non, c'est ça. Que la tipper, c'est effrayant. Tu sais, je veux dire, bon, le coupé, oui.
Ça passe.
Toute chose étant relative. Puis tu vois, on l'a éliminé parce qu'il n'y a plus de marché.
Voilà.
Fait que tu vois...
Tout ça pour dire, mardi 17 novembre, on va voir un premier aperçu. Et d'ici là, tu peux télécharger la plateforme Twitch.
Comment on fait ça, télécharger?
Je te montrerai ça un peu plus tard. Antoine.
Bon, véhicule de la semaine, on change de catégorie un peu.
Ouais.
Germain, t'as conduit le GMC Acadia.
Oui, exactement. GMC Acadia dans sa version AT4. Hein, on sait que cette sous-marque-là de GMC vend énormément.
Ouais.
Dans le cas du GMC Acadia, c'est peut-être un peu moins concret que pour un Canyon, par exemple. Donc, grosso modo, on a des jantes noires, des pneus peut-être un petit peu plus agressifs, un intérieur avec des surpiqûres orange.
Ouais.
Donc, c'est plus un ensemble d'apparence, je
Mais je suis curieux de t'entendre au niveau des suspensions.
Ben, j'ai trouvé que c'était relativement bruyant comme véhicule.
À cause des pneumatiques.
À cause des pneumatiques, assurément. Mais suspension, j'ai pas trouvé que c'était moins confortable là, qu'une version ordinaire.
Parce que
là,
si tu prends un Sierra AT4, tu te fais brasser à la cage, drôlement plus qu'avec une version régulière.
Là, on n'est pas là. Ça m'a pas choqué. Puis bon, j'ai quand même parcouru quelques centaines de kilomètres avec
beau
le
look,
véhicule.
Quand même.
Ben voilà. Donc, c'est un look qui est intéressant. C'est pour ça que je parlais plus d'un ensemble d'apparence plutôt que d'une version qui est capable là, d'aller dans le bois bien creux. Là. Mais non, en termes de suspension, ça peut convenir totalement au quotidien. Je regardais l'échelle de prix hein, quand même parce que
c'est en regardant l'échelle de prix qu'on comprend pourquoi ça se vend pas.
Ben voilà, parce qu'on est à 50 000 $ et à ce moment-là, on a une version avec des sièges en tissu. On n'a pas de volant chauffant. C'est un peu...
Puis on s'entend qu'à ce prix-là, ben t'as un Honda Passport tout équipé. Là.
Ben voilà, donc c'est un peu embêtant. Un petit mot sur la consommation, 12,6 litres au 100 enregistré.
Avec le V6,
3,6 litres qui franchement fait bien le travail. Il y a d'autres moteurs qui sont offerts 4 cylindres turbo. J'ai pas eu la chance de le conduire dans l'Acadia, mais il y a aussi un 4 cylindres 2,5 litres.
Je comprends même pas qu'on le garde encore.
J'ai pas conduit non plus d'Acadia avec le 2,5, mais quand je regarde la fiche technique, ça n'a aucun bon sens d'offrir ce moteur-là. Donc, franchement, avoir à choisir un Acadia, ce serait le 3,6.
Le 2,5, c'est le moteur qu'on devrait mettre d'emblée, si tu veux mon avis, dans un terrain.
Oui.
Parce qu'à 180 quelques chevaux, ce 2,5-là, atmosphérique, simple et efficace, ferait le travail bien plus qu'un 1,5 litre turbo dans le terrain que personne n'achète, soit dit en passant, parce que la majorité des terrains qui sont vendus, c'est avec le 2 litres turbo. Mais pourquoi ne pas offrir ce 2,5-là dans le terrain plutôt que dans l'Acadia, où il n'y a pas sa place et que personne n'achète de toute façon? Ça, c'est une belle énigme.
Véhicule GM aussi, de ton côté, Cadillac Escalade, véhicule complètement renouvelé, très, 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 très attendu.
Donc, dans sa version sport, il y a 5 déclinaisons de l'Escalade. Tu as Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport et Sport Platinum.
Wow!
Alors, c'est vraiment... Il y a 5 gammes. Mais là, évidemment, c'est vrai autant pour la version à empattement régulier que la version à empattement allongé, la ESV. Beaucoup plus spacieux, beaucoup mieux insonorisé. On a resserré les boulons partout. Qualité de fabrication exceptionnelle. Il faut vraiment se pencher sous le véhicule pour essayer de trouver des plastiques un peu plus bon marché. Il y en a encore à des endroits, mais disons que c'est... On a travaillé très, très fort. Les sièges, c'est magnifique. Et c'est surtout la planche de bord avec cet écran de 36 pouces de large.
Ouais, on est en 2021, puis ça paraît.
Ah, c'est exceptionnel. Moi, je peux te dire que le comportement routier de ce véhicule-là est super impressionnant. Bon, c'est 127 000 $ le véhicule d'essai que j'avais. Il manque encore des options.
Ouais.
Mais franchement, c'est un camion qui va connaître un succès garanti. C'est du gros argent sale pour General Motors.
Ouais.
C'est vraiment payant de vendre un produit comme celui-là. Les écrans à l'arrière, l'écran à l'avant, le système audio, 36 haut-parleurs.
Ça fait beaucoup.
Ça
là.
Sonne, c'est incroyable. Ouais. Alors, Fiston s'est installé à bord et s'amusait à grimper le volume puis à chercher des postes où ça, comme il dit, des postes qui bûchent, là.
Oui,
il cherchait des postes sur Radio XM pour écouter la qualité sonore. Puis évidemment, ben, tu sais, c'est un camion qui...
Zéro de combien de pouces? 22?
Dans ce cas-là, c'est 22 pouces, ouais, avec une option de 4165 $ juste pour les roues. Mais de série,
d'ailleurs,
t'as du 22 pouces.
J'ai vu nos collègues d'un site américain qui nous ont... qui ont fait un petit texte là, sur le Cadillac Escalade. Et ces roues semblent tellement précieuses que l'Escalade est livrée sur des grosses jantes noires.
Non, ça, je ne sais pas.
Je te le confirme. Donc, ces roues-là semblent très précieuses pour Cadillac et on ne voudrait pas qu'ils s'endommagent dans le transport. Donc, c'est des grosses roues d'acier noir.
Ah, ben oui, mais les camions sur le 22 pouces sont livrés sur des jantes d'acier noir comme ça. Des roues qui ne sont pas légales pour la route, soit dit en passant.
Et là le chroniqueur de ce site américain-là lançait à la blague une pétition pour que ces roues-là soient offertes parce que ça donne quand même un look en bon français un peu badass.
Je nommerai pas personne, mais moi, je connais des gens qui ont pris ces roues-là, ouais, qui sont illégales sur la route et qui les ont mis sur des véhicules vintage et ça donne un sacré look.
Fait que ça, c'est...
Mais ce sont des roues qui ne sont pas officiellement balancées,
ouais,
donc c'est pas jugé
pas
sécuritaire.
Bonne idée,
enfin, bref.
Mais pour le look, on est là.
Mais l'Escalade, c'est un produit, tu sais, je veux dire, on s'entend là, 6,2 litres, ouais, 420 chevaux. Tu peux avoir l'option du moteur diesel no charge, donc c'est un ou l'autre, c'est le même prix.
Alors que ce n'est pas le cas chez Chevrolet, par exemple.
J'aurais aimé pouvoir essayer la technologie Super Cruise, mais le véhicule que j'ai conduit, c'était un véhicule de pré-fabrication, donc qui n'était pas équipé du Super Cruise. À cause de la COVID, il y a eu des délais de fabrication du système, donc j'aurai la chance de réessayer ça un peu plus tard. Mais vraiment une sacrée belle machine. Et à l'opposé, j'ai aussi conduit le Tesla Model Y.
Un petit peu moins impressionnant.
Je vais vous en reparler un peu plus tard parce que ça faisait partie de ma chronique dont on parle en fin d'émission. Mais autant c'est un véhicule qui m'a impressionné pour sa technologie, pour l'innovation, pour son système d'exploitation qui est vraiment génial. L'autonomie, il n'y a rien pour arriver avec ça. C'est plus de 500
km. Et on sait que ça va se vendre et que ça se vend comme des petits pains chauds.
Oui, sauf qu'il y a des limites à Rive du Monde. Puis je te jure, là, je compte sur les doigts de ma main les véhicules que j'ai conduits en carrière qui étaient aussi mal assemblés que ça. En fait, il faudrait que j'aille deux doigts sur une main.
Ah oui.
C'est vraiment, là... ce véhicule-là, puis un Pontiac G6 décapotable, c'est pas mal au sommet des pires véhicules.
Les mêmes standards de construction.
Ah, c'est épouvantable, la qualité de fabrication de ça. Et ça me laisse croire que ça va très, très mal vieillir, mais je vous en reparle un petit peu plus tard.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Là, Germain, notre plus gros défi, ça va être de conserver un temps d'entrevue, un temps soit peu normal.
Et de réussir à poser plus qu'une question.
Oui, exactement. parce qu'on est avec Denis Duquet qui a la parole facile, on peut dire ça comme ça.
Oui.
Denis qui a contribué au Guide de l'auto depuis très, très, très longtemps. Je pense que Denis... Ben, salut, Denis, d'abord. Bonjour.
Bienvenue parmi nous.
Denis, c'est 1981, ta première année au Guide, si je me souviens bien.
C'est en 80, mais l'édition 81.
OK.
Mais tu as commencé tes essais avant ça, là, en plus.
En 77.
Wow. C'était quoi ta première voiture d'essai?
Toyota Liftback. Puis en plus, là, je débutais dans le métier, puis c'était pas organisé comme aujourd'hui, surtout chez Toyota. J'ai été chercher ça sur un concessionnaire dans l'ouest de l'île, puis c'était la voiture de fonction du vendeur. Puis là, en sacrant, il a vidé le coffre des hockey de son garçon, puis des patins de sa fille. Puis il m'a dit de faire attention. Fais attention au char, mon petit gars.
Mon petit gars, oui.
Puis disons que ça n'a pas impressionné personne, dont l'essayeur. Mais au moins, c'est un début. Mais j'étais chanceux parce qu'à une certaine époque, là, je travaillais pour un magazine. Puis Gilles Lamoureux était notre vendeur local, puis il s'occupait des concessionnaires. Puis on faisait un magazine qui s'appelait Sport Plus. C'est de même que j'ai commencé ma carrière, dans le fond. Puis là, il m'avait réservé des autos, des Lamborghini, des Maserati. Un bout de temps, pendant 6 mois, je pense que j'essayais une journée à la fois, naturellement, des Lotus. Je m'étais quasiment spécialisé dans les voitures exotiques avant d'être reconnu par les compagnies plus sérieuses, si on peut parler comme ça.
Ouais, ouais. Puis, bon, évidemment, on connaît la suite. Tu as été au guide de l'auto super longtemps. Mais, ouais. Mais la raison pour laquelle je voulais te parler aujourd'hui, c'est que tu es membre du North American Car of the Year, donc le jury des véhicules nord-américains de l'année, depuis les tout débuts ou à peu près. Hein?
Oui, depuis le début, parce que 1994. Et ça, c'est une association. Au début, c'était très autocratique. Il y avait... John Jensen, j'ai oublié son prénom, il restait dans la Nouvelle-Angleterre, puis lui, là, c'était un despote éclairé, là. Il guidait ça, mon gars, d'une main de fer, on payait 100$ par année, on recevait aucun argent de nulle part, puis c'était plus ou moins structuré à l'époque, là, ça s'adressait surtout à des gens qui allaient à beaucoup d'événements, puis
ouais.
Ici, la collaboration canadienne était zéro pin-bar. Mais quand ça a commencé tranquillement, pas vite, on a eu un logo, après ça, on a eu un trophée qui était affreusement laid jusqu'à il y a 4-5 ans, alors qu'on l'a changé.
Oui, puis il faut souligner que celui qui a dessiné le trophée du NACTA il y a 4 ou 5 ans, c'est un ancien designer de chez General Motors qui a fait un super travail.
Ah, quand même!
Qui a mieux réussi avec le trophée qu'avec certaines autres.
Oui, oui, effectivement. Oui,
non, il était chez Oldsmobile avant d'être le grand patron du design chez GM. Il était chez Oldsmobile, puis il avait sorti là, 3 modèles Chevrolet, Buick, je crois, puis Oldsmobile. Puis Oldsmobile a été retardé parce qu'on trouvait que l'élégance, ça faisait pas partie des qualités de la voiture. Puis c'est lui qui avait dessiné ça.
Rappelle-moi son nom, Ed.
Là, tu m'en demandes, moi, les noms.
Voyons, Denis, tu as une mémoire
phénoménale d'habitude, là.
Oui, mais pas pour les noms.
Ah, OK,
là, c'est zéro win-bar. Mais ça va peut-être... Tu sais, à mon âge, dans 5 minutes, je vais peut-être m'en rappeler.
Oui.
Mais c'est un homme très sympathique qui aimait beaucoup Montréal. Mais c'est un amateur de Formule 1, puis il venait à chaque année. Là. Mais bref, il a très bien réussi ce trophée-là.
Ouais.
Puis, non, là, le NACTA, ça s'est structuré. Quand Jensen a quitté... on a restructuré la chose avec un comité là, d'élection, puis une structure. Puis je sais qu'Antoine était avec nous il y a 2 ans à la réunion qu'on parlait des assurances.
Oui.
Aux États-Unis. Oui. Oh boy, tout le monde avait peur dans ça. Je pense qu'on va augmenter les assurances parce que si on fait un accident, tout le monde est... Si moi, je fais un accident à Détroit avec une voiture d'essai pendant les 2 jours d'essai, là, tout le monde va être actionné si je suis actionné.
Oui, oui, c'est ça. Non, c'était un petit peu un peu folklorique comme situation. C'était ouais. Particulier. Moi, je suis membre depuis 4 ans maintenant. Évidemment, j'ai pas connu les débuts de l'association. Il faut mentionner qu'il y a 60 membres nord-américains, dont 7 Québécois, je crois.
4 Québécois.
7 Canadiens, pardon, c'est ça. Gabriel Gélinas, c'est ajouté cette année. Là. Ouais.
Ouais. Ça a été au début. Là, il y avait un type de l'Ontario qui s'appelait Alex Law, qui faisait partie, qui était très actif à l'époque, bien ami avec les gens là, qui ont organisé ça. Puis ils ont dit que ça prendrait les Canadiens. Puis que lui, on était à assez bon terme. C'était Marc Lachapelle puis moi au début.
Puis Jacques Duval était là aussi.
Jacques Duval, il a ouais, mais après ça, il est allé voir un dirigeant, le Tony Swann, puis il a dit, ben moi, j'aimerais ça. Puis Swann est un dirigeant, ils ont ajouté Jacques. Puis Jacques, il y a 3-4 ans, il a décidé de quitter l'association.
Tony Swann, qui est décédé l'année passée, d'ailleurs. Ouais.
Non, il y a 2 ans.
2 ans. Bon, merci, tu vois.
La rectitude, toujours.
C'est ça.
Pas ça, c'est parce que l'année passée, moi, je suis pas allé pour toutes sortes de raisons. Puis l'année d'avant, au souper, c'était un souper à l'honneur de Tony Swann. Puis cette année, ça a l'air quasiment d'une chronique là, nécrologique, c'est John Lamb qui est décédé
ben oui.
2 jours avant la réunion,
ben oui.
À laquelle on n'a pas participé. Puis moi, John Lamb, ça m'a fait vraiment quelque chose. Tourner soir, je le détestais pour m'en confesser. C'était un arrogant personnage qui parlait à personne, sauf à lui-même, puis à quelques gens sélectionnés. Ça n'empêche pas d'être un excellent journaliste, mais John Lamb, là, ça fait longtemps qu'on se connaît, naturellement, nos âges. Puis c'était un des probablement le meilleur photographe d'auto en Amérique pendant des années.
Puis moi, bien, évidemment, en me retrouvant sur ce panel-là, tu sais, j'ai pu rencontrer des gens que je suis depuis plusieurs années, comme John Davis de Motor Week, qui je dirais, a lancé le bal sur le genre d'émission automobile qu'on connaît aujourd'hui, qui est produite autant au Canada français qu'anglais, là. Motor Week, là, au début des années 80, ben, ça a inspiré des émissions, je pense, comme RPM, puis comme ce qu'il y a du côté de...
Comme Motoring, par exemple?
Motoring, exactement.
John Davis, c'est une personne très intéressante. Mais en parlant des gens, moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là, un peu comme toi, là, tu rencontres des gens que tu lisais dans Car and Driver, Road and Track. Puis à ma grande déception, j'ai découvert qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas tellement bons pour conduire.
Ah, ça, par contre, j'ai pas le choix d'être d'accord avec toi.
Des fois, quand on rencontre nos idoles, on peut être déçu, finalement.
Il
pas...
y en a surtout, là... Il y en a une couple là, quand ils entendent parler, ils conduisaient, là, tu sais, puis je m'en rappelle, il y en a un là, sur l'autobahn, on roulait à peu près à 250. Monsieur décide de freiner en haut d'un vallon, d'un buton, parce que la peur l'a pris. Je dis, pas capable de conduire, débarrasse, là. Dans son article, là, driving down the autobahn at full blast, c'est comme, tu sais, puis la chienne d'aller trop vite, en tout cas. C'est un merveilleux monde des chroniqueurs automobiles.
Ah non, ça c'est sûr, il y a des... Puis c'est surprenant, moi je raconte une anecdote rapide, comme Denis est capable d'en compter 120. Quand on avait fait le programme SRT sur le circuit de Willow Spring en 2005,
très beau
en 2006, la gamme SRT de Chrysler était là au grand complet. Puis évidemment, moi j'étais encore très jeune dans le métier, puis j'étais super excité d'avoir le line-up au complet, là, de la Dodge SRT4 basée sur la Néon jusqu'à la Viper, tout était là. Et on a passé l'après-midi sur le circuit, moi puis mon collègue Sylvain Raymond, pendant que une grande majorité de journalistes américains plus âgés ont fait un ou deux tours de circuit.
Puis on mangeait un croissant,
puis après
puis
ça
un
se
café,
bourrait dans le buffet,
voilà.
Puis c'était pas... Hey, moi, j'étais là, voyons donc.
Mais ces gars-là, ils avaient tous conduit trois semaines, un mois avant.
Oui, mais...
Parce que la plupart des gens des grands magazines, à certaines époques, là, ils venaient faire un tour.
Oui.
Moi, j'ai déjà été à des présentations, puis en s'en allant, j'avais reçu, j'étais abonné à Road and Track, puis la voiture que j'allais essayer en primeur, là, était sur la page couverture.
Ben oui, c'est ça.
Ça fait que c'est ça. Puis même à l'aéroport de Détroit, là, il y a un stationnement, puis les magazines automobiles ont leur espace de stationnement. Puis quand ils arrivent de voyage, quand ils ont voyagé, ils s'en vont là, puis l'auto les attend, puis ils ne payent pas de stationnement. Puis les autos, en plus, sont livrées à domicile là-bas.
Oui, oui, pas d'essence, rien de ça. Non, c'est une autre réalité.
C'est des conditions différentes, là.
Il y avait un type qui restait dans le milieu de nulle part au Minnesota. Il allait y porter des autos toutes les semaines. Je sais même pas s'il y avait une influence quelconque, mais c'est de même. Là.
Ben, on a des collègues journalistes qui demeurent à Regina. Je me dis que ça ne doit pas être toujours évident pour eux autres non plus.
Oui, c'est un défi d'aller chercher l'auto.
Je pense que d'autres font des essais avec Zoom.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Avec la réalité virtuelle. Dis-nous, Denis, quand on regarde là, le palmarès des voitures et des camions de l'année des 25 dernières années, il y a quand même quelques surprises. Je pense notamment là, à la Chrysler Cirrus en 95. Quand on regarde ça avec un œil de 2020, c'est particulier de voir cette voiture-là déclarée finalement voiture de l'année. Mais
moi, je te dirais, même si tu regardes ça avec un œil de 2003.
Oui,
mais il faut dire, ça dépend toujours aussi des... Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ça. Là, parce qu'on vote, à un moment donné, on a 25 points à louer, puis on s'organise avec ça. Puis il faut dire que la majorité des gens qui votent, ce sont des Américains qui ont des fois une perception totalement différente de nous autres.
Oui.
Et deuxièmement, il faut regarder ce qu'il y avait à l'époque. Moi, je me souviens, le Cirrus, là, c'est comme... ça avait, là, les gens étaient impressionnés. Pour une fois, il avait réussi à faire une auto assez élégante, qui était passablement moderne.
Cab forward, design et, audacieux, oui.
Puis ça fait qu'à l'époque, le Chrysler, il y avait le vent dans les voiles, là. C'est sa compagnie qui a produit la Viper puis la Prowler. Ça fait que c'est pas tout à fait la même perception qu'aujourd'hui. Mais moi, je me rappelle une année, là, la Mini a gagné. Puis je pense que la moitié des journalistes voulaient démissionner parce qu'il y avait personne qui était personne. Ils ont eu la majorité, donc il y en a qui ont voté pour. Mais disons que je suis pas tout à fait d'accord avec... surtout la première génération, là, la première... génération de la nouvelle Mini, là.
Ouais.
Personnellement, je trouve que ça faisait pitié, là. Puis quelqu'un m'avait demandé comment, pourquoi ton jugement, j'avais ouvert le rayon arrière, puis je regarde des points de soudure. Puis c'était quelqu'un de la compagnie, le mini, il dit « Oh, I think you're right ». C'est vraiment assemblé, ça, dans une place où la lumière était très faible.
Faut expliquer aussi pourquoi il n'y a pas de Tesla sur le North American Car of the Year.
Il n'y a pas besoin de journalistes. Ça, puis, ben, regarde, la preuve, là, c'est qu'ils en vendent plus qu'ils peuvent en pas.
Ouais.
C'est pas vrai, ça, parce que là, ils ont des inventaires, ce qui n'était jamais arrivé.
Oui, ouais, ils commencent à avoir des inventaires, mais...
Service de presse, puis en plus, service à la clientèle, c'est deux notions complètement inconnues chez ce constructeur-là.
Absolument. Constructeur qui a même mentionné, il n'y a pas longtemps, ils ont mentionné que le département de relations publiques fermait ses portes. On ne savait même pas qu'il y en avait
un. C'est ça, il aurait fallu qu'il rouvre d'abord. Là.
C'est ça, exactement.
Mais il faut dire aussi que le contexte actuel, là, si on regarde, on a un président là, américain qui jusqu'au mois de janvier, il gère par tweet. Les gens apprennent qu'ils ont perdu leur emploi en lisant un tweet du président. Il va déclarer une guerre en tweetant. Là. On est loin des communiqués de presse envoyés aux journalistes. Parce qu'à une certaine époque, celui qui, ou celle, surtout celui, là, qui contrôlait l'information automobile, c'est lui qui avait la pôle.
Il fallait
avoir des contacts, puis si t'étais pas invité aux présentations, t'as flotte, t'avais rien. Parce que là, je me souviens, moi, un directeur d'une compagnie, tu peux me dépenser 100$ puis envoyer un kit de presse à un gars qui va avoir même pas 100 lecteurs, je la colle. Aujourd'hui, n'importe qui s'en va sur l'Internet, tout est là.
Voilà, ouais.
Puis même chez GM...
Je suis content que tu l'aies découvert, ça, Denis.
longtemps j'ai découvert ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui... Je m'en vais au site... Avant, il y avait un mot de passe chez GM, leur site de presse pour les journalistes, mais non...
C'était Asuna, le mot de passe.
Ça, là, ça fait penser. Moi, pour une fois, j'écrivais dans une section économique à la presse. En plus, j'avais un texte économique par semaine. Puis là, je reçois Asuna, une nouvelle truc. Là, je me dépêche, j'envoie ça. Mais par contre, le modem de la presse n'acceptait pas les A avec des trémas.
Les U avec des trémas, oui.
À Suna, il y avait un tréma sur le A. Ça a fait Suna, la nouvelle division.
Ou c'était un A majuscule, enfin bref, ouais, OK.
Ouais, tellement t'es très heureux. Mais aujourd'hui, ben là, ça n'existe pas, ces affaires-là.
Ça a existé un an et demi, en fait.
C'était assez bref comme voyage.
Mais le type d'information, ils n'ont même pas fait un voyage. Ils ont dévoilé ça au Salon de l'Auto de Toronto. Ils ont envoyé un communiqué « That was enough for them ». Hey, Puis, je connais un chroniqueur automobile qui en a acheté une.
Ah,
je
oui.
Je n'aimerais pas, mais...
Non, mais tu pourrais le nommer, là, je pense. Oui.
Non. C'était une aubaine parce qu'à la fin, là, ils ont écoulé les stocks assez rapidement, puis c'était une bonne auto, parce qu'elle avait une version... il voulait avoir une marque là.
La Suna, c'était pas compliqué là. C'était une Isuzu Impulse rebadgée, puis un Geo Tracker ou Suzuki Sidekick rebadgé.
C'est ça, c'est parce que les autres ils voulaient Chevrolet avait Geo, je pensais qu'ils disaient les autres on aimerait ça,
ouais.
Ils ont sorti ça.
C'était une marque uniquement canadienne parce qu'aux États-Unis c'était des concessionnaires séparés, mais chez nous t'avais Chevrolet Olds Cadillac puis t'avais Pontiac Buick GMC, c'est ça.
Il y avait Passport, la division Passport, là, ils vendaient. Puis même, il y avait un garage à Laval où on allait chercher nos autos. Des gens allaient chercher des... Ils allaient là pour faire application pour un Passport.
Automobile. Wow!
ça, c'est fantastique. Alors, revenons au NACTA. Évidemment, cette année, c'est un contexte particulier pour juger des voitures parce que tous les membres du jury canadien n'ont pas pu se déplacer du côté du Michigan pour aller faire l'essai des voitures dans un seul et même endroit comme on le fait d'ordinaire. Je pense, Denis, que tu vas être d'accord avec moi que c'est un joyeux casse-tête que de réussir à mettre la main sur tous les véhicules qui sont en nomination.
Je remercie Marc Lachapelle. Là. Moi, je suis trop paresseux pour faire ça. Là, contacter tout le monde à notre nom. Puis là, c'est une espèce de tic-tac-toe, une journée de 1 heure à 3 heures. D'autres, c'est d'une journée et demie. Il y en a d'autres. Puis au début, ils voulaient tous nous offrir une auto pour une semaine. Puis là, Marc, là, je me rappelle, il y a un courriel de Marc qui dit « Quand on va aux États-Unis, on la conduit 1 heure. »
C'est ça, exactement.
Donc, une demi-journée, ça va suffire. Là. Puis il y en a, là, je pense que la Polestar 2, là, c'est une auto que j'ai conduit pendant un après-midi, puis ça m'a tellement irrité que je pense que je l'aurais regardé plus longtemps, je l'aurais frappé à coups de bâton de baseball.
Ah, tu l'as pas aimé, ça?
Bien, ça ressemble à une Saab des années 2005, à peu près, là. Puis l'auto va bien comme tel, mais l'ergonomie de ça, cette affaire, ça commence par C, ça finit par R. Puis moi, quand j'ai commencé ça, je pars l'auto, puis c'est la logistique du concept de gestion de Volvo Empire. Puis là, j'avais ACDC qui me coupe. D'abord, j'ai essayé de trouver le volume. J'ai réussi à baisser le volume. Après ça, j'ai réussi à me débarrasser de ça. Puis, c'est ça, là. Puis, heureusement, à travers tout ça, mes pérégrinations, là, sur le site Internet, l'Internet, puis le show de commande, j'ai trouvé un podcast de David Gilmour sur ses guitares. Ça m'a calmé un peu. Puis en plus, leur fameuse ceinture jaune, là, que j'avais déjà écrit que c'était pour se salir instantanément, mais le véhicule que j'avais, il y en avait déjà une couple de tâches, puis le préparateur a dit, on n'est pas capable de les enlever, on a essayé, puis c'est le même.
C'est sûr que si tu viens d'aller faire les foins, c'est pas idéal.
Non,
il y en a d'autres. Je pense que je m'achèterais peut-être d'autres choses.
Ouais. As-tu eu des belles surprises quand même cette année?
Oui, moi, ce qui m'a surpris le plus, là, c'est les gros VUS de General Motors. Yukon...
ils ont un gros pas en avant avec ça, ouais.
Ben là, c'est la suspension indépendante, puis tout ça. Puis la seule affaire que je leur reproche, c'est toujours... Ils auraient pu au moins se forcer à avoir une version hybride, là.
Ouais, c'est ça. Les mécaniques sont traditionnelles. Ben, ils ont le diesel, quand même.
C'est pas comme si on était en 2021, puis qu'on était rendu là, hein? C'est pas ça, là.
Ben, ça dépend s'il y a le profit de l'acheteur. Nous autres, on oublie ça souvent. Mm. On regarde ça de notre bout de la lorgnette, puis on parle à des gens, ils disent « Hey! » Vous voulez des transmissions manuelles? On a vendu 0,5% l'an dernier
sur
toute la gamme. Ça nous donne quoi de mettre ça? Ça donne à rien, personne n'en veut. Puis, moi, j'ai un chroniqueur qui a écrit récemment là, qui parlait qu'on devrait avoir des boîtes manuelles comme en Formule 1. Pardon. Je pense que ça fait 15 ans qu'ils ont des boutons, eux autres.
Oui, c'est ça.
Remarque, c'est un embrayage manuel au bout, là, c'est électromécanique, mais quand même. Puis des discussions avec les cadres indicateurs, ça fait plus sport. Ben oui, en Formule 1, tu regardes ça, c'est une succession de témoins lumineux qui s'allument puis qui s'éteignent.
De toute façon, ceux qui ont l'impression d'être à bord d'une F1 quand ils conduisent une Golf R avec une transmission DSG, ben j'ai des petites nouvelles pour
vous. Il faut avoir
autres.
Quand même une imagination très fertile.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, on est loin d'être là.
C'est quand même. En plus, ça, si on regarde. Mais les gens, je pense qu'aujourd'hui, ils en ont plus que ras-le-bol de tout ça. Puis. Un site Internet dont j'ai pu prendre connaissance. On était tout fiers de nous montrer qu'on avait essayé une Lamborghini et une McLaren. Puis je pense qu'après 3 semaines, 1 mois, il y a eu 1000 visiteurs.
Ah oui, c'est ça. OK.
Les gens, ils ont dit, avant, c'était exclusif. Une Ferrari, t'es excité. Aujourd'hui, n'importe quel ticket peut faire un essai routier ou à peu près, parce que les gars sont... Ils regardent ce qu'il y a dans le cours. Il faut bien avoir de l'âme quand on va parler de nos produits. Puis en plus, avec les routes puis tout ça, les rappels à l'ordre, c'est assez difficile de s'éclater. Il faut avoir... faut louer le Mont-Tremblant une fois par de temps en temps, faire du lapping. Sans ça, ça sert à rien d'acheter ça, là.
Non, exactement. Puis si à l'inverse, si t'as-tu des véhicules qui t'ont amèrement déçu?
Ben là, j'en viens d'en nommer. Non, pas tellement, parce qu'un truc là-dedans, surtout les nouveautés... Moi, mon impression, j'allais à la Jack là, quand il y avait le Best Fest, puis NACTA il y a 2 ans. T'as l'impression, après 2 jours, que t'as conduit toujours le même véhicule.
C'est vrai que ça s'en vient, c'est du pré-marché, là. Ouais.
C'est tout à peu près un moteur 2 litres, 2,5 litres, turbo, soit une transmission CVT ou 8 ou 10 rapports. L'insonorisation est pas pire. Les suspensions sont... Il y a presque... plus de mauvaises voitures. Moi, je regrette le temps là, où on avait des
beaux citrons,
des voitures
là.
Comme le Chrysler Impérial, puis le Cordoba avec avec du tapis là, de à peu près du chèque de 3 pouces de paix. Puis
des voitures qu'Antoine et moi on regarde et qu'on trouve intéressantes aujourd'hui ou curieuses du moins là.
Non, mais c'est parce que les voitures, ben, ce qu'on appelle la châssis autonome, le body on frame, là,
ouais.
Ça permettait de changer le modèle à n'importe quand on pouvait. Là, puis c'est sûr que GM, ils ont inventé ça dans les années 30, là, le changement de modèle annuel. Là, les gens attendaient ça, les concessionnaires faisaient un cocktail, puis les autos dans la rue, puis même que dans les années 65-70, c'était une grosse affaire. Puis après ça, ben là, ça... Avec les monocoques, puis c'est un peu plus cher changer le modèle.
Oui.
Puis le plus absurde là-dedans, c'est Saturn qui ont fait ce qu'ils appellent Skeleton Body. Là,
ouais, un Space Frame.
Un morceau en plastique de Space Frame. Puis on dit, on va pouvoir changer quand on veut. Ouais. Premier changement, ça a pris 15 ans. Ouais. Après ça, l'autre changement, ils ont fermé.
Ouais. Ouais, ça, c'était une belle aventure, Saturn. Ça, on a fait beaucoup d'argent chez GM avec ça.
Jamais.
C'est ça.
Jamais.
Jamais.
Le problème, c'était à vendre, mais la madame se chargeait de ça. Qui mesurait, je pense, 4 pieds 9. Là. Elle s'assoyait à une table, là, puis les pieds ne portaient pas à terre, elle était assise sur sa chaise. Elle voulait vendre ça, elle ciblait Chevrolet. C'était facile à voir qu'à un moment donné, parce qu'il y avait c'était tout des Opel, ou à peu près. Là.
Ouais.
C'était quand même une gamme intéressante.
Ah, ben, je veux dire, c'est parce que Saturn a voulu se démarquer avec un service à la clientèle différent, puis ça marchait au début, mais on s'est vite rendu compte que la formule n'allait pas tenir la route bien longtemps.
Puis à chaque fois qu'on a essayé, puis peut-être qu'un de vous deux va pouvoir me corriger, à chaque fois qu'on a essayé de viser les jeunes, ça fonctionne pas de cibler que les jeunes.
Non, ben, la Saturn.
Cible les jeunes.
Saturn, on ciblait surtout l'acheteur d'une voiture importée. C'était ça l'objectif primaire.
Oui, puis en plus, les étudiants collégiaux aussi.
Oui.
Parce que je me rappelle le lancement de leur dernière berline qui ciblait parce qu'il y avait toutes à peu près les universités américaines. Les logos étaient sur des murs, puis les gars portaient des petits des cardigans là, avec une lettre universitaire. Ben là, c'était S pour Saturn. Puis ça n'a pas été ça. Puis en plus, on pouvait changer des éléments là, de la carrosserie. Un autre truc qui n'a pas marché.
Ah oui, oui, des belles moulures léopard.
Oui. Mais toutes les affaires là, de changement de pièces, comme la Smart au début, là, on pouvait la modifier comme on voulait, puis ça coûtait tellement cher que les gens disaient, bon, je vais regarder noir, ça, je l'aime de même.
Non, non, ça a été un autre fiasco. Tu vois, comment tu entrevois en terminant, Denis, l'avenir électrique de l'automobile? Parce que là, on en voit débarquer des véhicules électriques, mais on a l'impression que le Québec nage un peu à contre-courant dans une mer nord-américaine.
Des voitures qui sont pas nécessairement accessibles pour tous non plus. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement le rêve qu'on imaginait il y a 10 ou 15 ans.
Là. Les voitures là, qui ont transformé l'industrie, là, il y a la Fiat 500. En Italie, pas celle-là, l'ancienne, dans les années 50. Tu as eu la Renault 4 chevaux, tu as eu la Volkswagen Beetle, la Ford Model T, toutes des voitures abordables. Là, on arrive à des trucs 35 000, 40 000. Puis là, de plus en plus de chercheurs disent que c'est même pas écologique. La plupart des batteries ne sont pas recyclables, malgré ce qu'on en dit. Puis là, il y a un bouquin qui vient de sortir en France où, là, comme on dirait, là, il verge à deux bras sur le monde électrique, les coûts de production, etc., etc. Donc, c'est-tu aussi bon? C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de compagnies qui travaillent sur l'hydrogène, hein?
Bien, puis en même temps, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de compagnies qui veulent pas nécessairement ouvrir les vannes puis s'en aller dans l'électrification à fond la caisse parce que, veut pas, chez nous, au Québec, il y a peut-être un modèle d'affaires intéressant, mais à l'échelle nord-américaine, dans certains États où l'électricité est taxée par rapport à l'essence, bien, tu sais, c'est un autre monde.
Ça va être plus difficile à faire avaler aux consommateurs un véhicule électrique là-bas.
En plus,
là.
Si on regarde, là, on veut dénucléariser les centrales électriques en France et en Allemagne, entre autres. Puis la plupart en Amérique du Nord, c'est des centrales au gaz ou au mazout. Ici au Québec, grâce aux barrages hydroélectriques, on nage dans le bonheur de ce côté-là. Puis le plus curieux, la Norvège, qu'on cite en exemple, d'abord c'est un très petit pays, avec un réseau routier assez limité.
Oui, il n'y a pas de route. Ouais.
Puis en plus, l'argent qu'on a fait pour développer ces voitures-là, puis les commercialiser, c'est avec le pétrole de la mer du Nord. C'est un peu curieux.
Wow.
Ça fait que c'est des circonstances un peu spéciales. Quand on sort Copenhague, là, c'est une ville exemplaire, c'est plat comme une galette. Tu peux te promener en vélo toute l'année, mais à Montréal, hein, ça s'appelle Mont-Royal, c'est parce qu'il y a une côte à quelque part. Tu peux descendre travailler au centre-ville, mais remonter à la côte, là. C'est pour ça que les Bixi, les gens descendent en vélo, ben ceux qui vont maintenant en ville, il y en a moins. Puis là, tu vois les gros camions, là, F-250, ramasser les vélos pour les remonter en haut, parce que les gens ne les prennent pas en fin de journée, ils prennent l'autobus ou le métro.
Ou un communauto.
Oui. C'est plein, ça, communauto, plein de choix.
J'ai déjà fait un essai avec une fille qui était... on avait une petite voiture à boîte manuelle. La madame fait longtemps qu'elle n'avait pas conduit. C'est, j'ai fini, je suis allé voir... un spécialiste pour me replacer vertèbre cervicale. Changer de vitesse, ça, c'est un choc à chaque fois. Mais si tu vois un auto bosser, c'est sûr que c'est une communauto, là.
Ah ben les quatre coins de pare-choc, ça, on...
Puis les câbles de roue manquants, ça, c'est un classique.
L'idée n'est pas bête, parce que tu n'as pas beaucoup d'un automobile, tu habites Montréal, parce que comme, moi, j'ai des amis à New York, quand ils sont déménagés à New York, première chose qu'ils ont fait, ils ont vendu leur voiture.
Oui, l'idée de partager une voiture avec tes voisins puis les membres de ton entourage, j'ai pas de problème avec ça, mais en pratique, pour nous qui aimons l'automobile et qui vivons pour l'automobile, c'est pas toujours
facile. Évidemment pas actuellement une formule COVID-proof.
Non, c'est un petit peu plus difficile.
Ce qui va arriver, là, c'est les voitures autonomes. Il va y avoir des parcs de voitures autonomes. Tu vas embarquer dedans, tu dis, je m'en vais, là, sur l'avenue Vigée, 500 Vigée, puis tu embarques dedans, puis ils vont t'amener là. Puis,
je le sais, Denis, là, que toi, tu imagines ça de façon lointaine, puis que ça ne te touchera pas, là, je comprends. Mais nous autres, on va être pognés pour dealer avec ça. Moi, ça me tente pas vraiment de vivre ça, des voitures autonomes.
Il faut dire qu'il y a un paquet de vieux. Là. Moi, je suis rendu, non, je pense à ça. Puis peut-être dans 10 ans, j'aurais plus de permis de conduire, puis où je verrais plus clair, ou je sais pas trop quoi. Je serais bien heureux d'avoir un auto autonome me ramasser et m'amener au centre commercial ou quelque chose de même.
Tu m'appelleras, je te donnerai des lifts.
Oh boy, ouais, je vais prendre une Valium avant d'embarquer.
Merci, Denis, pour ton temps. Puis on rappelle que si les gens veulent te lire, c'est sur le site derrière le volant. Comment?
Derrière le volant.net.
.net, où tu as 3 chroniques par semaine, plus ton émission de radio, puis tu fais des chroniques au 91.9.
Il y en a une, là, c'est des anecdotes. C'est ce que j'ai plus facile à faire, me rappeler les bons et les mauvais coups de ma carrière.
Vous avez d'ailleurs pu constater que des anecdotes dans la boîte de Denis, il y en a encore beaucoup.
Le sac d'anecdotes est encore rempli. Exactement. On peut en piger encore, j'ai l'impression.
Moi, je suis rendu à l'époque où je radote.
Bon, tranquillement, ça commence un peu. Je suis pas inquiet.
un grand merci, Denis.
C'est ça, bien, au revoir tout le monde.
OK, merci, bye-bye.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Même si on est juste au mois de novembre, c'est déjà le temps des palmarès de fin d'année. Et tu me présentes, Antoine, cette semaine, les cinq coups de masse ou les cinq véhicules qui t'ont le plus déçu cette année.
Ouais.
Pour différentes raisons.
Rapidement, je vais vous parler de la Cadillac CT4. On en a parlé un peu il y a quelques semaines, mais je trouve que, tu sais, pas faire ses devoirs, là, c'est ça. On a pris une Cadillac...
Arrivé avec du réchauffé, finalement.
Ben, du réchauffé, pas à peu près. On est arrivé avec... On a lancé la Cadillac ATS en janvier 2012 au Salon de Détroit, voiture qui est arrivée sur le marché en 2013. On l'a retirée du marché ensuite en 2018, alors qu'elle ne se vendait plus beaucoup et que le marché avait énormément évolué. Puis, on nous la ramène 2 ans plus tard dans une formule revampée, donc un look un peu rafraîchi, un habitacle un peu retravaillé, des nouvelles mécaniques, ben, en fait, une nouvelle mécanique pour le moteur de la V.
Ouais.
Oui, c'est plus performant. Oui, c'est un petit peu plus moderne au niveau de la présentation, mais ça reste une ATS qui a 9 ans de conception. Et on est dans un marché où, évidemment, il faut se battre sans éo pour se faire une place parce qu'évidemment, c'est de moins en moins populaire, les voitures dans ce segment-là. Alors, Cadillac réessaie encore une fois.
Mais on n'essaye pas très fort.
Là, on n'essaye pas fort. C'est-à-dire que tu te rends compte que le budget était assez limité puis qu'on a travaillé avec ce qu'on avait puis on l'a modifié ou remodelé au mieux de nos connaissances. Mais à mon avis, c'est tout simplement pas assez. Alors, c'est dommage, mais moi, j'ai l'impression que cette voiture-là vit déjà sur du temps emprunté, qu'on va la retirer du marché. Ça sera pas très long. Donc, dommage pour la Cadillac CT4. Le deuxième, c'est le Chevrolet Trailblazer, un autre produit GM. Pas pour les mêmes raisons, parce que le Trailblazer, pour moi, c'est un véhicule réussi en tout point, sauf pour ce qui se trouve sous le capot.
C'est-à-dire un 3-cylindres, là?
Ben, un 3-cylindres, on parle du 1,2 litre, mais c'est déjà un moteur qu'on sait qui se vend pas ou à peu près. C'est le 1,3 qui est mis sur la sellette. beaucoup plus gros. C'est 0,1 litre de plus de cylindrée.
Bien, rendu là, on prend chaque centimètre cube, là.
Oui, c'est ça. Fait que 1,3 litre turbo-compressé, jumelé à une boîte à 9 rapports et un rouage intégral qu'il faut manuellement activer. Honnêtement, sur le plan mécanique, c'est super décevant. Et l'objectif d'un moteur comme ça, c'est quoi, dans le fond? C'est d'économiser à la pompe.
Mais en pratique, c'est pas plus économique qu'un 4 cylindres atmosphérique.
Bon, premièrement, tu consommes autant, sinon plus, qu'un 4 cylindres atmosphérique que tu vas retrouver chez la compétition. Deuxièmement, tu as un moteur qui, à long terme, sera assurément plus fragile en raison de la turbocompression. Et troisièmement, ben c'est pas un moteur aussi agréable à exploiter qu'un moteur 4 cylindres. Là, c'est pas vrai. Il y a un coup initial qui est intéressant, il faut y donner ça, mais ça râle, c'est un 3 cylindres, ça vibre. Ouais. Pour moi, c'est vraiment pas une mécanique intéressante. Et en plus, on vend ça quand même assez cher. Alors moi, ça a pas été un coup de cœur, loin de là. Et c'est la même raison pour laquelle un autre coup de masse, c'est le Ford Escape slash le Bronco Sport qu'on a même pas vraiment pu essayer encore. Mais dans les versions d'entrée de gamme, c'est du 3 cylindres 1,5 litres de 180 chevaux. Qu'est-ce que ça fait là?
C'est une excellente question et je n'ai pas la réponse.
Pourquoi un moteur 3 cylindres? On n'en veut pas de ça en Amérique du Nord. Je comprends.
C'est correct de l'offrir sur d'autres marchés où les règles sont peut-être...
Le Ford Kuga en Europe.
Force cette motorisation-là est offerte.
C'est ça.
Mais ici, non. Donc, offrez-nous un vrai moteur.
C'est ça. Fait que le Ford Kuga, qui est le clone de l'Escape sur le marché européen, je peux comprendre parce que là-bas, la taxation à la cylindrée est très importante. Mais ici, on n'a pas ce problème-là. Et honnêtement, avec les habitude d'utilisation des conducteurs nord-américains, c'est un moteur qui n'a pas sa place.
Ouais.
Ça consomme plus sur papier que les 4 cylindres 2.5 de la compétition. Nissan Rogue, Mazda CX-5 est juste un peu plus élevé, mais sur papier...
Et ça, c'est sur papier, donc là,
Nissan Rogue, RAV4, Honda CR-V qui a 1.5 4 cylindres turbo consomme moins que ça. Pourquoi vous nous garochez cette mécanique-là? Et la preuve que les gens ne l'adoptent pas, ben ils se vendent pas le nouveau Escape.
Non,
hein?
non.
Alors ça, je pense que c'est un échec total. Ensuite, ben j'ai mis dans le top 5 le Hyundai Venue.
Ouais.
Pour les raisons que vous connaissez, je l'ai déjà mentionné, prendre une Accent de 16 000 $ retirer ça du marché et la remplacer par un Venue qui est plus court, qui a un empattement plus court, qui a moins d'espace cargo, qui a un moteur moins puissant, qui consomme 15% de plus.
Qui a un style un petit peu plus moderne pour aller plaire à la clientèle.
Ouais, mais qui est bâti plus cheap et qu'on vend 4 000 $ plus cher. Moi, je suis pas capable.
Donc, le consommateur est juste perdant?
Complètement, mais c'est un beau petit look, puis la fille à Guillaume l'annonce. Fait que qu'est-ce que tu veux?
C'est comme ça. Et ça marche.
Et finalement, ben vous m'avez entendu un peu plus tôt, le Tesla Model Y, pour l'ensemble de sa qualité, pour sa non-qualité de fabrication, devrais-je dire. Écoute, il manque de la peinture, il manque de boulons. Le haillon, ça a été déposé sur le véhicule. Tu as l'impression que c'est même pas boulonné. Ça craque de partout quand tu conduis ça. Écoute...
C'est un véhicule conçu et assemblé à la va-vite.
Je l'ai essayé, moi, un peu plus tôt cette semaine et je sortais d'un BMW X3. OK? Alors, un BMW X3 qui, en passant, est un véhicule qui m'impressionne plus que jamais. Et je pense que si j'avais à m'acheter un véhicule dans ce segment-là cette année, ça serait ça. Le plaisir de conduire est au rendez-vous. La qualité de fabrication est là. C'est super beau à l'intérieur. C'est confortable. La direction, c'est toujours aussi agréable. Bref, c'est vraiment un véhicule qui m'a plu, moi. Et là, je sors de ça et j'embarque dans un Tesla. J'avais l'impression que les portes étaient pour tomber à terre. Tellement ça craquait. En bon français, on appelle ça une vraie poubelle. C'est pas plus compliqué que ça, mais la technologie est impressionnante.
Voilà.
Il y a l'aura de la marque qui est là,
tout
qui fait en
fait
sorte que les gens vont en acheter. Sauf que jamais tu me vendrais ça, parce que c'est sûr que c'est un véhicule qui va très, très, très mal vieillir. Sur ce,
je pense que c'était très clair. Alors, bonne semaine à toi, Antoine.
Voilà.
Et bonne semaine aux auditeurs.
Cube Radio.